Mathieu. Hey, j'ai dit 23 matin. I am in the patate. Parce que c'est 22. Hey, Mathieu 23, c'est le fameux passage. Malheur à vous, là, tu sais. On n'est pas rendu là encore. Mais mettons qu'on va mettre la table. Puis là, vous allez dire, wow, on a beaucoup de versets. En fait, on va faire les versets 15 à 46. Mais on va pas tous les lire en ce moment. On va les lire à mesure. On va prendre le temps de les décortiquer. Je veux commencer par la fin. Juste qu'on lit le dernier verset. Puis ensuite, on va lire l'ensemble du passage à mesure du message. Mais regardez comment tout ça finit. Il y a de l'opposition. Un groupe qui vient, s'oppose à Jésus. Un autre groupe. Mais au verset 46, ça dit, « Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. » Amen! Ça, c'est mon Dieu. Et donc, on va regarder ensemble les dernières oppositions officielles à Jésus-Christ. Puis là, tu sais, dans le sens de délégation, je veux dire, il y a eu d'autres oppositions par la suite. Mais là, tu sais, des groupes envoyés pour essayer de le prendre, là, ça a fini là. Et donc, on voit ici combien Jésus-Christ, hein, comme toujours, et j'aime tellement ça, le voir parfaitement au contrôle. Et comme on dit en français, en québécois, il était au-dessus de ses affaires. Et je crois que Matthieu ici a placé là ses rencontres, parce que c'était des groupes qui venaient pour rencontrer Jésus, poser des questions, puis les discussions qu'il y avait avec ces groupes-là, a placé ça à cet endroit dans son évangile pour continuer le thème de l'autorité de Jésus. Voyez-vous, ça fait plusieurs fois qu'on parle, puis ça avait commencé, là, on avait vu dans chapitre 12, verset 21, avec tout avec le temple, tout ça, Jésus affirmait son autorité. Et comment tout ça, ça fait dans le fond un effet crescendo. Là, il essaie tout de le prendre, ça marche pas, ça finit, plus personne n'est capable. Puis après ça, verset 23, on dirait, il met le paquet parce que là, il dit, ouais, malheur à vous. Puis là, il parle vraiment avec autorité comme celui qui donne le verdict sur leur condition spirituelle. Donc vraiment, il y a une forte, forte affirmation du roi dans cet évangile qui nous présente Jésus comme le roi. Et donc, notre texte nous présente les dernières oppositions officielles et se termine avec le verset qu'on vient de lire, que plus personne osait rien dire, parce que l'homme, dans sa folie, dans sa religion, essayait de prendre le Fils de Dieu lui-même au piège. Pensez-y, là. Je veux dire, fallait, tu sais, des fois, on dit les braves sont fous, là, mais je veux dire, là, il était, je ne sais pas s'il était brave, mais c'est certain qu'il était fou. Puis, imaginez-vous, regardez, là, on voit des gens ici qui sont décrits, là, par le Saint-Esprit dans Éphésiens, comme étant des gens qui ont la vanité dans leurs pensées, l'intelligence obscurcie, étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, qui ont perdu tout sentiment, se sont livrés au dérèglement, qui essaient de prendre le Fils de Dieu pur, saint, en défaut. Je veux dire, si on parle d'un combat de boxe, là, je veux dire, c'est plus que inégal, là, je veux dire, c'est impossible. Donc, c'est ça ici la scène. Et bien sûr, hein, on peut savoir nous-mêmes, mais je veux pas juste qu'on soit. Faut jamais qu'on soit trop vite à accuser les pharisiens, parce qu'on a tous du pharisien dans nous. Donc, ne regardons pas les pharisiens de haut, regardons-les comme un miroir plutôt. Parce qu'on a cette même folie des fois d'oser s'opposer à Dieu qui est la sagesse même. N'est-ce pas ce qu'on fait quand on dit, ben Seigneur, comment ça tu fais ça? Comment ça que ça vire de même puis que tu permets ça? On n'est pas mieux. On s'oppose au Fils de Dieu, qui est la sagesse incarnée, qui décide, c'est le roi. C'est lui qui est en bon québécois, qui cale les shots, et nous, on oserait s'opposer à ça. Et donc, dans cette lancée de révélation, ici, qui élève là, l'autorité de Jésus, Matthieu présente ceux qui s'opposent à lui comme ça, et comment sont lamentablement dans l'échec face au roi, qui non seulement a l'autorité suprême dans le domaine physique, il l'a démontré avec le temple, il l'a démontré avec les miracles, avec tout ça, mais aussi dans le domaine spirituel. Il l'a démontré aussi, mais aussi dans le domaine de la sagesse. Je veux dire, personne ne peut résister à sa sagesse, à la sagesse de ses discours. Donc, il y a des questions qui étaient, moi j'aurais été face à ça, j'aurais pas su quoi dire, mais pas pour Jésus. Et donc, on va considérer ça avec trois types d'opposition à l'autorité de Jésus. Et donc, c'est des types d'opposition qu'on voit là et qui, évidemment, font un parallèle pour aujourd'hui. Ça existe encore dans le monde dans lequel on est. Donc, les trois types d'opposition à l'autorité de Jésus. D'abord, dans les versets 15 à 22, on a l'opposition pragmatique. Lisons les versets 15 à 22. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc, ce qui t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? » « De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Donc ici on a les Hérodiens. Les Hérodiens, comme leur nom l'indique, étaient favorables, soutenaient la dynastie d'Hérode qui régnait à ce moment dans la Judée. Et donc, l'ironie ici, par exemple, c'est qu'il était envoyé par des pharisiens. Et les pharisiens et les Hérodiens se détestaient. Parce que les pharisiens ne pouvaient pas supporter l'idée de l'occupation romaine. OK? Et même s'il y avait toute cette animosité-là entre les deux, ça a été mis de côté parce qu'il y avait un ennemi commun auquel ils voulaient s'attaquer. Et en plus de ça, il faut comprendre que la tension spirituelle ici était grande parce que d'abord, c'était un piège, OK? Où Jésus, quoi qu'il réponde, il allait être mauvais pour quelqu'un. OK? C'est-à-dire que s'il répondait de ne pas payer le tribut, il allait être accusé d'être traître envers Rome. Et s'il disait de le payer, traître envers sa nation Israël. Donc, c'était comme c'est un catch-22, comme on dit en anglais. Donc, Jésus, il est face à soi à perdre le soutien de Rome ou le soutien de la foule, dans le fond. Et voyez comment ici, voyez comment il est poussé à essayer de plaire à un groupe ou à l'autre. D'où l'idée du pragmatisme. Le pragmatisme, c'est d'essayer de plaire à une gang, faire le pratico-pratique pour... OK? C'est de là que je prends l'idée du pragmatisme. On va y revenir dans un instant, mais juste vous développer un peu plus sur la situation ici. Ici, il est question du denier. Le denier, c'était la pièce de monnaie utilisée pour payer l'impôt de l'occupant. Donc, les Romains donnaient comme impôt là, à payer le denier. Et ça rappelait donc la domination romaine sur Israël. Okay? C'était un douloureux rappel de « vous êtes tributaire, vous êtes sous la domination d'une nation païenne. Okay? » Et même, il disait, non seulement sous la domination, mais il était comme la propriété. Il faut que tu payes parce qu'on a droit de propriété sur toi en tant que nation. C'est ce que le denier rappelait, alors qu'eux se proclamaient fièrement être de Dieu. Hein? Vous rappelez comment on dit, nous n'avons de Dieu que on n'a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Abraham. Donc ça, c'est une première chose sur le denier. Puis ensuite, l'effigie dont il est question sur cette pièce, c'était une représentation de Tibère, l'un des Césars, là, qui était vêtu royalement comme un seigneur. Et donc, c'était considéré comme idolâtre. Tu sais, les Juifs disaient, « Ah! C'est un roi païen qui se prend pour Dieu, qui se prend pour le Seigneur. » OK? Fait que c'était vraiment un irritant pour la nation d'Israël. Donc, c'était vraiment comme rajouter l'injure à l'insulte. De payer pour ces gens-là avec l'effigie de quelqu'un qui se prend pour Dieu. Imaginez-vous. Mais là, verset 21, la réponse de Jésus à tout ça. Qu'est-ce qu'il leur dit? « Rendez donc à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. » La réponse est géniale. Il détruit le pragmatisme dans l'œuf. Parce, OK, dans ce pragmatisme, il y avait de la crainte des hommes. Veux-tu plaire à ce groupe-là? Veux-tu faire quelque chose pour plaire à une gang? Veux-tu faire quelque chose à plaire à l'autre? Et Jésus anéantit tout ça en remettant chacun à sa place. C'est-à-dire, l'homme à sa place et Rome face à Dieu aussi à sa place. Pourquoi? L'image de l'empereur était sur le denier, OK? Il était gravé dessus. Et l'image de Dieu est gravée sur l'homme, n'est-ce pas? On est fait à l'image de Dieu. Donc, il dit, là où l'image... C'est pour ça qu'il dit, c'est de qui ça a l'image? Ben, regarde, c'est là, donné à ceux, c'est parce que c'est le gouvernement, vous leur donnez. Puis vous, vous êtes à l'image de Dieu, vous donnez ce qui est dû à Dieu. C'est ça l'essence de sa question. Non seulement il répond par rapport à eux, mais il revoit jusqu'au plan créateur de Dieu dans Genèse au chapitre 1. Ils ont dû vraiment faire un saut. Oh! Ils se sont fait prendre, là. C'est leurs écritures encore qui leur mettaient sous le nez. Donc, ici... on donne ce qui est dû en argent à celui sur qui est la pièce d'argent. Bon, on le donne-tu vraiment à la reine? Je ne sais pas trop. Là. En tout cas, peut-être, je ne suis pas très bon dans les finances, l'économie, là, mais... OK, on paye nos impôts. C'est ce que la Bible nous dit de faire.
C'est sous le sceau de la reine.
Mais nous donnons à Dieu ce qui est gravé sur nos cœurs, sur notre personne, notre allégeance pour notre vie. Voyez-vous, c'est important ce qui est enseigné ici. Et ce que Jésus leur dit en essence, c'est que bien qu'il faille donner aux autorités humaines leur dû, et il le faut, il faut ultimement le faire en tant qu'acte de loyauté envers Dieu lui-même, qui règne sur tout, sur le règne des hommes. Okay? Donc, on donne à César parce que on est fidèle à Dieu, puis on donne à Dieu suprêmement parce qu'il est Dieu. Et je crois qu'il y a quelque chose par rapport à ce que nous vivons en ce moment avec la direction des églises où Dieu révèle un pragmatique. C'est une philosophie, le pragmatisme. On fait ça parce que ça marche. Mais ça marche pour qui? À qui qu'on veut plaire? Le pragmatisme est une forme de crainte des hommes. On veut donner à l'homme ce qui lui plaît. OK? Tu sais, une version comme caricaturale de ça, là, ça serait, mettons, Rick Warren, Purpose Driven Church, on s'en va dans le voisinage, puis c'est quoi que tu veux comme église, on va te donner ça comme tu veux. Ça, c'est du pragmatisme, bon, pas mal. Bon, je sais pas si c'est à l'extrême. Il y en a sûrement un qui l'a dépassé à quelque part dans... Mais bon, disons qu'il est pas mal dans les instigateurs, ceux qui connaissent, là, à Saddleback, en Californie, là. Putain, dans les années 90, qu'il a fait son livre, là. Puis après, il a tout fait d'autres sortes de Purpose Driven machin, là. Fait qu'en tout cas... Mais c'est une philosophie, OK? Une philosophie, le pragmatisme, qui troque une forme d'adoration. Et pour nous, en ce moment, OK, l'adoration de Dieu, c'est en esprit puis en vérité. Mais ça ne veut pas dire virtuel. On se rassemble ensemble pour adorer le Seigneur. Mais avec le pragmatisme, on a troqué cette adoration collective ensemble, et on en a fait une autre virtuelle qui, je crois, est une dénature, le culte d'adoration, la vie d'une église telle qu'elle doit être. Au nom du pragmatisme, on a détrôné Christ sur le trône de son église. Parce que c'est lui qui nous dit de ne pas abandonner notre assemblée. C'est lui qui nous dit de nous accueillir les uns les autres, de pleurer les uns avec les autres, puis... Mes amis, il y a tellement de choses qui montrent qu'on doit être ensemble, présent. Et dans le fond, c'est la réponse au pragmatisme qu'on voit en ce moment, c'est dire « Christ est Seigneur » et c'est non négociable.
Amen.
Et c'est ça ici qui est arrivé aussi. OK, on donne à dire, il n'y a pas ici, j'espère que vous enfreignez pas le code de la route, que vous payez vos impôts, que vous êtes honnête, mais... L'autorité suprême, spécialement en matière d'adoration, c'est Jésus-Christ, c'est non négociable. Regardez Moïse, il y a eu une négociation avec Pharaon. Sur quoi? Sur l'adoration, la manière d'adorer. Est-ce que ça a été négociable? Absolument pas. Shadrach, Meshach et Abednego, ok, on va te donner une autre chance, peut-être que tu n'avais pas compris. C'est encore une négociation sur l'adoration, non négociable. Dans la prière, Daniel, ok? Donc, vraiment ici... C'est des moments cruciaux, on dit des defining moments. OK, je crois qu'en ce moment, face au pragmatisme, on est dans un moment crucial dans notre vie, de notre église, de notre société, comme ces gens-là qui, leur loyauté à l'autorité suprême de Dieu, a brisé la puissance spirituelle du pragmatisme. Moïse aurait pu dire, ouais, c'est vrai, on peut adorer de cette façon-là. Il n'a pas tombé dans le piège de vouloir plaire aux hommes, de vouloir... parce que ça l'aurait dénaturé le culte au vrai Dieu vivant. Et donc, c'est tellement évident l'application pour en ce moment, je pense que on peut laisser cela juste pour dire, ça a vraiment rapport avec qui est Seigneur finalement. Et notre frère nous le rappelle, les gens peuvent dire, ah oui, ton sauveur, c'est beau, mais qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire des problèmes par rapport aux chrétiens, c'est qu'ils disent que Christ est Seigneur. Amen. Parce que si lui est Seigneur, notre loyauté est lui. Les gouvernements n'aiment pas ça. Ton petit sauveur qui fait ton affaire, ça les dérange pas tant que ça. Bon, toi, tu prends Jésus, l'autre, il prend un autre. Mais dire qu'il est Seigneur, qu'il a l'autorité suprême, ça dérange. Mm. Ceux qui sont en autorité. Pas parce qu'on est rebelle, mais parce qu'on reconnaît celui qui est au-dessus. Amen. Et Nebuchadnezzar, lui, l'a appris la manière seule. C'est pour ça que je dis ce matin, il fallait qu'on prie pour ces gens-là. Parce une expérience, Nebuchadnezzar, c'est pas ce qui est le plus agréable. C'est merveilleux parce que je crois qu'il s'est converti avec tout ça quand il a fini. Tu sais, là, vous savez comment c'est arrivé. Il a mangé de l'herbe, puis tout ça, puis Dieu l'a rétabli dans son sens. Et donc, ça, c'est la première chose. L'opposition pragmatique. Maintenant, l'opposition rationaliste avec les Sadducéens. Venez avec moi au verset 23. Le même jour. Oh, man, pauvre. Il pensait qu'il allait l'avoir, hein? Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posant cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme et son frère. Il en fut de même du deuxième, puis du troisième jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel ces sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, mais seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu que Dieu vous a dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est-il pas le Dieu des... Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. L'opposition rationaliste. La réponse d'ici de Jésus, « OK, ces gens-là, les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection, au miracle, au surnaturel. » OK? C'était des rationalistes. Un peu comme, tu sais, maintenant, genre, moi, là... je crois à la science, je crois pas au surnaturel. On a ça beaucoup, là, c'est dans les écoles et tout ça, le rationalisme, l'idée de la négation du surnaturel, ce qui est d'ailleurs le modus operandi du socialisme et du communisme, là, dans lequel on a tous grandi, socialisme. Puis, tu sais, le socialisme, ce n'est qu'un prélude au communisme, là, comme on est en train pas mal de se rendre compte en ce moment. Donc, le rationalisme, ici, Jésus leur répond du fait que leur compréhension de l'immortalité était fausse. Parce qu'eux autres avaient une fausse compréhension de Dieu. Il y avait une mauvaise compréhension des Écritures parce qu'il y avait une mauvaise compréhension de Dieu. Parce que la réponse que Jésus leur donne, OK, au verset 29, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Vous voyez, ils ne connaissent pas ni les Écritures, ni le Dieu des Écritures. Ce qu'il leur dit, c'est qu'eux autres, ils niaient le surnaturel et c'était donc une négation de Dieu lui-même, qui dans sa nature est surnaturel. Mm-hmm. C'est-à-dire, si tu nies le surnaturel, tu nies le Dieu qui est surnaturel et qui est éternel, tout-puissant, saint, incomparable, tout. Je veux dire, il n'y a pas ça sur terre, c'est pas des choses naturelles de ce monde. Je vous donne quelques références en rafale par rapport à ça. Genèse 18, 14, y a-t-il quoi que ce soit, rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? OK, ça dit ça dans Genèse 18, 14. Dans Jérémie 32, « Ah, Seigneur éternel, vois-tu, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? » Autrement dit, si Dieu est Dieu, c'est normal qu'il fasse des choses qui soient... surnaturelle, étonnante, et parce que Dieu est Dieu.
Amen.
Dans Ésaïe aussi, 42, il dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Dieu, le fait qu'il est surnaturel, ça fait qu'il est exceptionnel, qu'il n'y en a pas d'autre comme lui. Sinon, on pourrait le comparer à un homme. Tu sais, des fois, les gens font ça avec Jésus. Ah, oh, ouais, c'est un espèce de super prophète. Là, tu sais, ouais. Mais c'est ça, c'est pour, dans le fond, renier sa nature surnaturelle. Et donc, il leur dit qu'ils ne comprennent pas les Écritures, parce que les Écritures révèlent Dieu tel qu'il est en réalité. Eux autres se faisaient un Dieu imaginaire. Et en plus, la déclaration au verset 32, qui dit que, OK, je suis, c'est le nom de Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est donc pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, sa réponse ici, c'est une déclaration sur l'immortalité, non seulement de Dieu, mais des hommes, de leur âme. Pourquoi? Parce qu'il présente ces personnes-là comme n'étant pas mortes, mais vivantes. Avec Dieu, il dit, je suis le Dieu de ces trois hommes-là, maintenant, là.
Amen.
Je veux dire, c'est ça aussi la déclaration. Donc, eux autres, ils reniaient tout ça à la résurrection. Non, Jésus est en train de l'affirmer ici. Mm-hmm. Comment qu'il est le Dieu de la résurrection, le Dieu vivant. Et pour lui, tous sont vivants, qu'il nous dit ailleurs dans les Écritures. Ça nous révèle ici que la dégradation de la pensée humaine quant à la nature de Dieu et même la nature humaine, OK, on peut voir l'homme comme un simple être matériel, mortel. Tu sais, on entend ça. On est un amassis de chimique, là, un amalgame, là, OK, sans âme éternelle. Mais c'est une grave dégradation de notre compréhension de qui Dieu est. Pourquoi qu'on ne comprend pas comment on est réellement? Parce qu'on n'a pas la bonne compréhension de Dieu. Je vous dis, tout dans le monde et tout ce qu'on voit, c'est tout par rapport à Dieu. Est-ce qu'on reconnaît Dieu tel qu'il est? C'est pour ça que c'est grave quand les écoles ont dit plus de prières dans les écoles, plus de 10 commandements, puis tout ça, parce qu'on enlève le témoignage de Dieu qu'il y avait dans ces endroits-là pour qu'il donne une conscience que Dieu est la référence ultime. Et là, non, là, on fait de qui la référence ultime? L'homme. C'est ça l'humanisme, mais c'est incroyablement destructeur. Donc, cette dégradation qui arrête d'attribuer à Dieu le surnaturel, mais même aussi l'intervention personnelle dans la vie des hommes, lui qui se révèle aux hommes afin qu'ils puissent l'adorer en esprit et en vérité. Quand on renie tout ça, on renie l'essentiel et on renie même tout le concept de la rédemption. La rédemption, c'est surnaturel, c'est Dieu qui est venu, lui, pour régler le problème de la perdition de l'homme. Et encore là, je veux faire un parallèle avec notre monde actuel. En ce moment, on a une religion nouvelle, une nouvelle forme, peut-être une vieille religion, mais l'humanisme, c'est une religion sans surnaturel. Puis on voit ça, là, je dis humanisme, mais tu sais, la pensée postmoderne qui rejette tout ce qui est surnaturel et tout ça. Puis là, ça devient, bon, environnementalisme. Ah, si on sauve nous-mêmes, on n'a pas besoin, c'est tout comme... OK, c'est même le COVIDisme, on peut appeler, je pense que ça existe ce mot-là, mais on se sauve nous-mêmes des éléments de la nature, des virus, on se sauve de, puis toute l'idée aussi des tensions raciales et tout ça. C'est toutes des religions rationalistes, sans Dieu et vouées à la perdition. C'est la manifestation du cœur de l'homme. Mais j'aimerais juste faire un petit commentaire là-dessus qui est quand même intéressant. Savez-vous que même des gens non sauvés se rendent compte du ridicule de la chose?
C'est sûr.
On entend dans le monde, des fois ici à la radio, des fois t'entends, ben voyons donc là, les affaires puis de COVIDisme ou d'environnementalisme ou tout ça. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte comment c'est ridicule. Là, ce qui est malheureux, c'est que ces personnes-là ne connaissent pas Dieu. Il faut qu'ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont une âme éternelle et que c'est Dieu qu'il faut qu'ils les sauvent. Mais c'est pour dire, ce rationalisme, ça va nulle part. Et comme avec l'évolution, qui est une autre version de ça, ça ne mène à rien. Donc, cette opposition est détruite aussi par Christ. Et la dernière, c'est dans les versets 34 à 40, l'opposition légaliste. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître! » C'est drôle, hein, comment... Oh, maître! Ils ont de l'air donc fin, hein, puis... Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ici, la question du docteur de la loi qui était un pharisien, qui était du groupe, là, ça dit l'un d'eux, l'un des pharisiens. Il lui pose une question, et les pharisiens étaient les champions de la loi de l'époque. Ils étaient vus comme des espèces de super-héros de la religion de l'époque. C'est ceux qui priaient, là, puis il y avait tous les autres, toutes les barres sur les bontés, puis les points sur les bons « i » et tout ça. Et donc, s'il pose une question quant à la loi, une question très importante, c'est quoi le plus grand commandement? Et c'est à comprendre ici, il faut comprendre, OK, que ces gens-là, les pharisiens, avaient une fausse interprétation du décalogue, les 10 commandements, OK? Ils disaient que le troisième commandement, l'idée de ne pas prendre le nom du Seigneur en vain, était le plus important de tous et que les autres lui étaient assujettis et secondaires. On ne va pas rentrer dans tous les détails de ça, mais c'est ce qu'ils disaient. Non, pour eux autres, c'est ça. C'est pour ça qu'ils disent c'est quoi le plus important. Parce qu'eux, ils l'avaient déjà déterminé, puis ils voulaient essayer de le prendre, OK? Les autres, ils avaient tout mis leurs œufs dans ce panier-là, le troisième. Puis, c'est le commandement de Dieu, c'est saint, c'est bon, mais OK? Fait que c'est là l'arrière-plan de la question. Ils voulaient essayer de le piéger. Mais Jésus répond ici en citant hors du décalogue des 10 commandements. Donc, pas dans Exode 20, puis pas dans Deutéronome 5. Il cite dans Deutéronome 6 et dans Lévitique 19. Je vous les lis, là, parce que c'est dans le texte, mais je vous lis littéralement ce à quoi Jésus faisait référence ici. Dans Deutéronome 6, ça dit « Écoute Israël », puis ça c'est le schéma Israël. Schéma, c'est « écoute », ok, c'est super solennel. Tous les Juifs font ça, le fameux schéma d'Israël. Puis pas « schéma », je fais un schéma, là, c'est de l'hébreu là, qui veut dire « écoute ».« Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, toute ta pensée. » Et ensuite, pour le deuxième, il réfère à Lévitique 19-18. « Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Donc, Jésus répond à la question, encore là, en les prenant eux-mêmes dans leur propre jeu. Et Jésus ici donne l'essence même de toute la loi. C'est l'amour. Parce qu'ils disent « Ah, il ne faut pas prendre le nom du Seigneur. » Puis il y avait leur raisonnement, puis je veux dire, c'est un bon commandement, puis il y avait... Mais c'est quoi le plus important? Celui, tu sais, ça dit dans Romains 13, hein, que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Parce que quand tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, tout ton âme, toute ton pensée, tu prends plaisir à la loi de Dieu sur l'homme intérieur. Puis quand tu aimes ton prochain comme toi-même, donc c'est les deux tablettes de la loi, dans le fond, qui nous amènent ici. Et au verset 39, ça dit, « Voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est à comprendre là, de la bonne façon. C'est pas, « Ah, t'as besoin de plus d'amour propre. Faut que tu t'aimes plus dans ton petit cœur parce que tu t'aimes pas assez. Pis... » Excusez, c'est pas très gentil de dire ça. Mais non, en fait, on a trop d'amour propre. Okay? On s'aime déjà trop. L'idée, c'est plus la règle d'or. Ce que tu veux que les autres te fassent. T'sais, toi, tu prends déjà soin de toi-même au bout, comme il faut, là. Ben, traite les autres avec autant de soin puis de dévotion.
Amen.
C'est ça l'idée, OK? Autrement dit, c'est ça, on a cette tendance égocentrique à penser à nous autres en premier, il dit non, c'est ça, fais ce que tu veux que les autres te fassent, toi fais-le de même pour eux autres, OK? Mais ça va même plus loin que ça parce qu'on sait que la mesure de notre amour, c'est même pas nous-mêmes, ça va au-delà de ça, parce que Christ, plus loin, dans Jean 13, hein, il dit... Comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi les uns les autres. Christ est la mesure. Vous savez, Christ est la mesure de tout dans la vie chrétienne. Et son amour est la mesure pour notre amour. Ah, moi j'aime tellement le Seigneur, j'aime tellement les autres. Ah oui, comme Jésus-Christ. Ah, là tu vas te rasseoir, tu te rends compte, okay, il me reste toute ma vie. Donc, tu sais, c'est la mesure parfaite. Et donc, ça nous garde humbles et à nous confier dans le Seigneur. Donc, c'est très bon, c'est salutaire. Maintenant, pourquoi Jésus avait tant d'influence et gagnait de l'influence, puis cette gang-là, là, tous ceux-là qu'on a vus aujourd'hui, là, ils perdaient de l'influence de plus en plus. C'est pour ça qu'ils étaient jaloux, parce qu'ils perdaient des disciples. Puis c'était payant d'avoir des disciples, il y avait tout un système monétaire qui allait avec, là. Parce que Jésus proclamait la vérité dans l'amour.
Amen.
Eux n'avaient que la vérité froide, sans le souci, l'amour. La vérité est bonne, Mais quand elle est dépourvue de l'amour, c'est froid. Et c'est quoi le premier fruit de l'esprit quand on marche par l'esprit?
L'amour.
L'amour. Et vous savez, il y a des gens qu'on veut ramener, qu'on veut réinfluencer à revenir au Seigneur, n'est-ce pas? Des gens qui sont bloqués, pris dans leur voie, qui ne veulent rien savoir. Et oui, on a besoin de leur dire la vérité. Ils ont besoin d'entendre la vérité sur Christ, sur le fait que le péché, c'est du péché et c'est grave. Mais pour les gagner, il faut qu'ils soient convaincus qu'on leur dit parce qu'on les aime. Mm-hmm. Que c'est dans l'amour qu'on leur... On ne fait pas juste leur garrocher des versets par la tête qui ont besoin de se repentir. Non, mais c'est vrai, on devrait le dire en pleurant. On devrait le dire en... Comme on l'a vu ce matin, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés. Oui, vous êtes loin de Dieu, vous avez besoin d'être réconciliés. C'est ça la vérité, mais... Le ton, si on vous en supplie au nom de Jésus-Christ, comprenez-vous? La vérité dans l'amour, c'est là l'influence. Et je dirais que c'est vraiment ça qui va faire la différence par rapport aux situations difficiles qu'on peut avoir dans nos vies, dans nos relations, chacun dans nos différentes vies. Maintenant, ça m'amène à la conclusion de notre passage, versets 41 à 45. Là, c'est Jésus qui se met à poser des questions. Oh yes, gets interesting. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? » Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? » Lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son Fils? » Nul ne put y répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions.
Mais...
C'est bien quand Jésus ici, vous, qu'est-ce que vous pensez? Là, OK, ils ont posé des questions, ils n'ont rien réussi à dire. Mais là, Jésus leur pose une question, puis vraiment, il plante le clou dans le cercueil une fois pour toutes. Il les sort complètement de leur terrain théologique respectif. Les autres allaient tous avec ce qu'ils connaissaient, puis tout ça, les pragmatiques, les rationalistes, puis les légalistes. Là, il les amène... Là où, OK, eux autres étaient, dans le fond, dans un sable mouvant de leur théologie erronée. Et Jésus l'amène sur le roc de sa parole. Il les ramène à Christ, à lui-même, celui dont toutes les Écritures rendent témoignage. OK? Amen. Fait que quand il pose la question, c'est pas une question juste au hasard. Ouais, j'ai une petite question à vous poser. Non, c'était fondamental. La révélation de qui il est. OK, il va à l'essentiel. Et leur réponse, au verset 42, quand Jésus dit, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? Ils lui répondirent, de David. Il y a quelque chose à apprendre. Si leur réponse ici dévoile qu'ils voyaient qu'un simple homme dans le Messie. Je crois, c'est mon interprétation ici. Mais Jésus se sert de cette occasion pour affirmer encore une fois sa divinité. Et je vous explique pourquoi. La réponse était incomplète, elle était partielle. Jésus était-il le fils de David? Oui. Mais il était beaucoup, beaucoup plus que ça. C'était la moitié de la vérité, il manquait l'autre moitié. Et de façon majestueuse et géniale, comme d'habitude, Jésus réfute ici les trois oppositions qu'il venait d'avoir avec cette simple question qu'il leur pose. Et je vous explique comment. Ici, les opposants étaient en trois groupes, on l'a vu. Le premier... était pragmatique, beaucoup versé par rapport à la politique. Donc, eux, le rôle politique du Messie les intéressait. Et la réponse de Jésus ici, ce que Jésus leur dit, révèle que le Messie n'était pas un simple homme, juste le fils du roi David, mais qu'il était aussi le fils de Dieu, le roi suprême.
Amen.
Donc, le roi suprême sur le règne des hommes et qui devait lui rendre compte à lui. Fait qu'eux autres faisaient, « Oh, Hérode, ici, non, t'as peur, le fils de David, c'est le fils de Dieu. » Puis il est bien plus important qu'Hérode. Puis, OK? Voyez-vous comment il met les choses en perspective pour le premier groupe politiquement? Deuxième groupe, la seigneurie du Messie sur David. Parce qu'il dit ça, il l'appelle, David l'appelle son Seigneur. Ça répond à la question de la résurrection parce que c'est sous-entendu ici dans ce qu'il dit que s'il est son Seigneur, il parle au présent, s'il est son Seigneur, ça veut dire que David l'a eu comme Seigneur puis qu'il est toujours son Seigneur. David est dans la présence de son Seigneur en ce moment. Fait qu'il répond à la question des rationalistes, pas de résurrection. Voyez-vous? Vous dites, c'est génial, là. Il y a plus là-dedans, il y a vraiment quelque chose. Troisième groupe, les légalistes. avec leur compréhension strictement matérielle ou légaliste du Messie et des commandements de Dieu. Alors Jésus leur rappelle que le fondement de la loi, c'est l'amour, comme je vous disais. Donc, c'est là la sphère de direction du règne du Messie. C'est pas juste, autrement dit, le Messie n'est pas juste venu comme un espèce de législateur avec un livre froid qui met sa table et qui dit ça. Non, le Messie, c'est Dieu fait homme, l'amour de Dieu incarné qui incarne la vérité. C'est tellement plus que juste un gars qui vient dire quoi faire puis qui nous donne un livre. Ça, Moïse l'a fait. Puis Moïse, c'est Moïse, c'était son rôle pour son temps. Mais pour eux autres, c'était comme stické avec Moïse. Mais là, non, le fils de David, lui, ça va bien au-delà. C'est l'incarnation de la vérité dans l'amour. Maintenant, n'est-ce pas, comme ça ici, quand on voit avec ces trois formes d'opposition, on peut voir ça il y a 2000 ans, mais est-ce que ça se pourrait que ça soit encore, on dit en anglais, ces trois oppositions sont encore « alive and well », sont encore bien vivantes aujourd'hui de nos jours. On a fait référence au rationalisme, on s'entend là-dessus. Mais oui, on a encore du pragmatisme, on en a parlé. On a encore, oui, du rationalisme, puis du légalisme. Et Jésus, il y a 2000 ans, en fait, face à ça, dans son incarnation de son corps qu'il a eu pendant 33 ans, et maintenant, c'est le corps de son Église, c'est nous, qui fait face à la même opposition. C'est pareil encore. Et donc, on peut utiliser les mêmes armes qu'il a utilisées. Et c'est clair que Satan et le monde s'attaquent encore à Jésus-Christ avec ses trois formes d'opposition. C'est clair et net. Et qu'on ne voit pas ça comme personnel. C'est pas à nous qui s'attaque, c'est à Christ en nous. C'est pour celui à qui on a voué notre allégeance et pour lequel on vit et qui vit en nous. N'est-ce pas? Et je veux juste faire un petit parallèle ici pour conclure. Vous savez, ça dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 16, « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise des chairs, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Vous savez que la convoitise des yeux, c'est un désir d'avoir, un désir fort d'avoir. Je le vois, je le veux. La convoitise de la chair, c'est un désir de faire. « Ah, je veux faire ça. » Ça me titille. Puis l'orgueil de la vie, c'est un désir d'être. Je veux être quelqu'un. OK? Savez-vous, dans les milieux chrétiens, on a... Ah, puis là, je vais piler sur des orteils de pas mal tout le monde. C'est pas grave, c'est pas pour blesser, c'est pas juste pour qu'on réfléchisse. Tu sais, on a tous des tendances différentes. Mais pensez à ça. Parce que cette opposition, on peut la retrouver, c'est une réflexion pour terminer. Il y a des milieux qui, d'après leur propension, veulent une expérience. Ils veulent avoir une expérience. Ils voient ça, puis là, OK. Il y a d'autres milieux qui veulent faire. On me demande bien, c'est qui sont de même? La grosse, voyons, on va faire fort. Est-ce que tu veux que ça soit nous autres? OK, Baptiste, Pentecôtiste, Baptiste, là, on s'entend, je vais être clair, là, quand même. Puis d'autres milieux que c'est être quelqu'un. Avoir toute cette connaissance, puis tu sais, être quelqu'un, puis figure historique et tout ça. Oh, t'es pas subtil! J'aime bien! Non, mais c'est vrai, c'est la bonne réponse. Mais je veux pas... OK, on est tous pécheurs, on n'est pas juste, on l'est pas tous de la même manière. Mais non, mais voici le point que je veux amener. Ce sont des convoitises. Et ce n'est pas ce que nous sommes en Jésus-Christ, c'est ce que notre chair, c'est la propension de notre chair. Et chacun, on a, ça dit, on est chacun des brebis qui suivaient sa propre voie. Il y en a qui sont vers une, qui ont ce désir fort d'avoir, d'autres de faire et d'autres d'être, OK? Puis on n'aurait pas tiré la pierre à personne parce que ça dit que chacun, on est attiré puis amorcé par notre propre convoitise. Puis, oh ouais, toi, t'as celle-là. Ben, puis l'autre peut dire, ben oui, toi, on a juste l'air d'une gang de gars qui s'ostinent pour rien puis qui sont toutes, tu sais, ça sert à rien même d'aller là, OK? Mais je vous l'ai dit, j'ai quelque chose pour offenser tout le monde. J'ai dit à l'invité ce matin, il dit, ouais, il était un peu comme surpris de la prédication. J'ai dit, ouais, t'avais-tu amené tes capes d'acier? Puis, il a pas compris sur le début, il pensait que je voulais l'épiler ses pieds, que j'étais mal habillé. J'ai dit, ouais, ça aussi, là, mais... tout l'avait compris au début, mais bon, en tout cas. Je veux juste qu'on voit un piège. Les Juifs ont manqué le salut, eux autres, ça dit qu'ils voulaient établir leur propre justice... Au lieu de recevoir la justice de Christ, ils l'ont manqué. Savez-vous que, en tant que chrétien, avec ce désir fort de faire, d'avoir, d'être, 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 on peut passer à côté de celui qui est tout ça, puis encore bien mieux. Et il ne faut pas, encore là, il ne faut pas que ça c'est des gros méchants qu'on a vu aujourd'hui, puis nous, une chance qu'on n'est pas comme ça. On a toutes ces tendances-là. Notre chair s'oppose à Dieu, elle ne plaît pas à Dieu, puis elle ne peut même pas. C'est dans notre nature pécheresse, ces choses-là. Mais qu'on reconnaisse quel est notre penchant et qu'on l'amène au pied de la croix, où est-ce que la liberté commence. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et mes amis, la sanctification, grandir dans le Seigneur, des fois on peut passer à côté de celui qui est notre sanctification à cause des bonnes choses qu'on a apprises à avoir, à faire puis à être. Mais on peut passer à côté de celui qui est tout ça. Qu'est-ce qu'on a à faire? Juste choisir la bonne part. C'est ce qu'on fait. On est au pied de notre Seigneur, celui qui est notre tout en tous, celui qui est notre repos, celui qui fait tout à merveille, celui en qui nous avons tout, celui qui a fait de nous une nouvelle personne complètement renouvelée en Jésus-Christ. On a tout ça en lui. Que ce soit juste notre joie, notre reconnaissance et notre repos, qu'on se repose dans ces choses. Amen!
Amen.
Merci Seigneur pour le fait qu'on a considéré un beau passage. J'aime tellement l'évangile de Matthieu. Je suis content qu'on s'arrête avec cet évangile ensemble les dimanches après-midi. Merci Seigneur qu'on te voit dans ta majesté. Avec les hommes, c'est pitoyable. Et Seigneur, on est pareil. On est là, nous autres, avec nos gros raisonnements puis nos pensées. Puis on se pense si bon. Mais Seigneur, tu dis dans ta parole que toute bouche doit être fermée devant toi. Il n'y a aucune sagesse, aucune connaissance devant l'Éternel. Seigneur, on te remercie de ça que on n'a pas besoin de s'appuyer sur notre sagesse, que toi-même, tu es notre sagesse. Merci, Seigneur, qu'on n'a pas besoin de rechercher à avoir, à faire, à être, qu'on a tout ça pleinement en toi. Merci, Seigneur, pour ces vérités. Merci pour ce passage précieux. Merci pour ce peuple, cette œuvre que tu fais. C'est beau. C'est vraiment beau, c'est toi. Et Seigneur, on sait que c'est fragile. Garde-nous, protège-nous de nous-mêmes, des tendances de nos chairs. Et Seigneur, que vraiment, professant la vérité dans l'amour, nous croissions tous, à tous égards, en celui qui est notre chef, Christ. C'est en son nom qu'on te le demande. Amen.
Amen.
Amen. Si vous voulez prier, vous avez